Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
Le débat, le numérique et politique, alors que tout le monde s'embrase dans ce studio, on ne sait pas trop ce qui se passe. Le débat de ce soir, la start-up nation. Non, Hugo Bernalicis, il n'embrasse personne.
Moi, je suis pour, mais bon.
Pourquoi pas. Le débat, le numérique et politique, le débat de ce soir, la start-up nation en marche.
Nation.
Point d'interrogation, l'important c'est le point d'interrogation. Nous sommes pour en parler avec deux députés, Jean-François Césarini, député de La République En Marche, député d'Avignon, c'est dans le Vaucluse, hein, c'est
bien ça ? Oui, tout à fait.
Absolument. Frédéric. Et Hugo Bernalicci, député de la France Insoumise, député du Nord. Premier bilan de Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, fiscalisation des géants du net, Conseil national du numérique, RGPD. On va revenir sur tous ces sujets qu'on a évoqués au cours de cette émission et on va y revenir de manière plus politique avec donc deux députés de points de vue forcément différents. Mais commençons peut-être par une double question pour chacun de vous. Quelle est, l'un après l'autre, la mesure que vous pourriez mettre au crédit du nouveau président et celle qui vous aurait déçu, en essayant d'être objectif? Jean-François Césarini, pour commencer.
Il faut commencer, j'allais dire, par le nerf de la guerre, par la matière première du numérique. Donc on peut, je crois, se féliciter de l'accélération du plan haut débit, du plan très haut débit, pour avoir un haut débit en 2020, et aussi l'accord historique avec les quatre opérateurs de télécom, je crois que là-dessus...
Sur la couverture 4G le plan haut débit, quoi.
Un plan haut débit, puis même bon, la lutte contre les zones blanches, qui effectivement, là, conditionne tout ce qu'on peut raconter ensuite et tout ce qu'on peut réformer ensuite, quoi. Je pense en termes d'investissement, notamment avec les opérateurs télécoms, sur le fait que ça ne va pas coûter quoi que ce soit à l'État, mais que c'est eux qui vont investir et dans les pylônes, et pour aller chercher des nouveaux villages, etc. etc. Il y a quelque chose là qui me semble, à mon avis, faire consensus.
La petite déception, ou la déception ?
La déception, c'est que j'ai l'impression... Et pourtant, on essaie d'y travailler avec la commission aménagement du territoire dont je fais partie, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement et le président n'arrivent pas à comprendre à quel point le numérique va créer une forme d'exode urbain par rapport à l'économie. C'est-à-dire qu'à un moment où on va aller travailler ailleurs que dans les métropoles. Et c'est vrai que la vision métropolitaine... souvent du gouvernement, et je le dis très librement, hein. et des fois un peu...
Donc c'est la question des territoires pour
vous. Oui, c'est les territoires, parce qu'on dit, ok, on est contre les zones blanches, mais on ne parle là que de raccorder, j'allais dire, des habitants, et pas forcément des entreprises. On a l'impression qu'ils ne savent pas qu'il y a déjà des start-up dans nos villages. Et pourtant, elles sont là.
Des villages comme Avignon, par exemple.
Ou Lourmarin.
Sur ces deux aspects, Hugo Bernalicci.
Moi, c'est pas tant une mesure mise en œuvre que le fait que le numérique soit un sujet majeur. Ça, j'en remercie La République En Marche et le président de la République et puis son gouvernement d'en faire un sujet majeur, ce qui n'est pas forcément le cas des gouvernements précédents, des parlements précédents. Je ne sais pas si la moyenne d'âge y était pour quelque chose, mais toujours est-il que c'était un des sujets comme ça. Là, on a du numérique à toutes les sauces. Alors après, le point négatif, c'est justement qu'on l'a à toutes les sauces comme si c'était une baguette magique, un remède miracle pour relancer la croissance, pour relancer je sais pas trop quoi, pour améliorer la compétitivité, blablabla, etc. Et on voit bien qu'il faut pas se tromper entre mettre l'accent sur le numérique et finir sur quelque chose de dogmatique, comme s'il y avait... il suffit d'appuyer sur le bouton numérique pour que tous les problèmes soient résolus. Je pense notamment au ministère de la Justice, je pense notamment à tout ce qui se passe au niveau de la santé, je pense notamment à l'éducation, où c'est pas si simple que de dire que tout va être numérisé d'ici je sais pas combien de temps. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça parce que à la fin il reste toujours des êtres humains.
Un point sur Mounir Majoubi, comment est-ce que l'un et l'autre vous voyez son bilan au bout d'une année seulement, hein?
Alors déjà, il faut peut-être expliquer que c'est peut-être la première fois qu'on a un gouvernement où il y a vraiment un ministre qui est indépendant. On se rappelle que
rattaché à Matignon, on l'a dit.
Exactement, ouais. C'est quelque chose qui est assez nouveau, avec un budget propre qui est assez important. Je crois que Mounir est en train d'accélérer, de monter en régime de plus en plus, là notamment avec des annonces qui me semblent aller justement, c'était un dialogue et un débat qu'on a eu tous les deux à l'Assemblée avec le ministre Majoubi, là aussi, de dire, moi je veux bien qu'on court après les licornes, les grandes startups qui gagnent de l'argent, etc., etc. Très bien, mais il y a aussi la numérisation des PME qu'on a nous dans nos territoires intermédiaires, il y a aussi les quartiers politiques de la ville, etc., etc. Et donc là, on voit qu'il y a des annonces, notamment sur la grande école du numérique et sur 10 000 formations supplémentaires, donc pour des décrocheurs, donc pour ceux qui n'ont pas le bac, gratuites, dans les quartiers politiques de la ville. Il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer, de comprendre qu'effectivement le numérique, c'est pas qu'un truc de métropole, de parisien, avec des startups qui font des grandes levées de fonds, c'est autre chose. Et je suis d'accord avec le député Bernalicis, c'est un outil. C'est pas, il n'y a pas quelque chose de magique dans le numérique. C'est pas bon en soi, mais c'est pas mauvais en soi non plus.
Hugo Bernalicis.
Ouais, moi je pense que le bilan de Mounir Majoubi, je le connais assez peu finalement, parce que il y a moi la vision que j'ai du numérique sur le gouvernement, c'est qu'elle est transversale. Alors je sais pas s'il est derrière toutes les propositions du numérique derrière chaque ministre. Ce que je sais, c'est qu'il y a des ministres qui croient que c'est une baguette magique le numérique. Mais bon, peut-être pas Mounir Majoubi, j'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, le numérique, il faut pas juste le concevoir comme un truc économique, quoi. C'est aussi un dossier de liberté individuelle. Et je le dis parce que les dernières lois qu'on a eu à voter à l'Assemblée, c'est sur la cybersécurité, c'est sur les données personnelles, deux transcriptions de directives européennes, et ça portait précisément là-dessus. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est, on n'est pas à l'avant-garde. Pourtant, au niveau européen, il paraît que c'est nous qui avons été à l'avant-garde. Mais sans doute le gouvernement précédent. Et là, on fait une transcription à minima des directives européennes, alors qu'on pourrait aller plus loin dans la protection des données personnelles.
Sur ces sujets, justement, Jean-François Cesarini, taxation des GAFA, cybersécurité, RGPD.
Sur la taxation, effectivement. Alors, encore une fois, cette taxe, c'est pas forcément une taxe seulement pour les GAFA. Ça va aussi concerner, il y a la moitié des entreprises qui sont ciblées sont effectivement les entreprises américaines, mais l'autre moitié, c'est aussi des entreprises européennes, voire asiatiques. Donc, faut pas faire cette taxe-là, la réduire à une taxation GAFA. On peut quand même être fier que la France soit là, leader, porteur, d'aller chercher quelque chose qui est, qu'on pensait impossible.
Alors même que l'Allemagne est plus réservée.
Alors qu'on voit que ça a été pas simple ce qui s'est passé il y a pas très longtemps. On sait que le maire a une réunion assez compliquée avec d'autres pays en Europe. Ce qui m'intéresse, moi, dans la taxation qu'on appelle GAFAM, en tout cas sur la taxation des grandes entreprises du numérique, c'est qu'on est en train de forger un concept juridique qui n'existait pas avant. Au-delà même de savoir s'il faut le faire sur le chiffre d'affaires ou sur les bénéfices ou etc. C'est-à-dire aujourd'hui, et c'est une vraie, pour le coup, profonde révolution de penser, on va aller taxer des entreprises qui n'ont pas forcément leurs sièges sociaux dans ce pays-là, parce qu'elles ont des utilisateurs, parce qu'elles y font des recettes. Ça, c'est quelque chose qui est important, parce que ça va toucher toute l'économie numérique, de comment on va aujourd'hui créer une imposition par rapport à cette nouvelle économie.
Hugo Bernalicis.
Non, oui, ça va dans le bon sens, très clairement. Après, vous savez, on a fait toute une tripotée d'amendements pour expliquer que la taxe a été peut-être un petit peu légère au vu des montants financiers qui sont brassés par les principaux leaders américains, notamment, mais pas seulement, ça a été indiqué. Et oui, il faut repenser un peu cette fiscalité. Mais clairement, à un moment donné, ça peut pas être... comme ça a été, il y a eu un épisode avec le ministre Darmanin et je crois que c'était Google qui avait pas payé déjà ses impôts qu'il devait. Et à la fin, ça s'est négocié. Voilà, moi je trouve ça assez insupportable qu'on puisse tranquillement négocier la loi et le droit. Et donc je suis pour que la loi et le droit s'appliquent. J'espère que cette taxation, elle s'appliquera stricto sensu. Voilà, ça me semble extrêmement important. Et puis en matière de numérique, ce serait peut-être pas trop mal, à mon avis, hein, que l'État puisse être exemplaire, que l'Assemblée nationale, par exemple, puisse être exemplaire. Enfin, on a tous nos postes informatiques sous Microsoft, on a tous une boîte de messagerie Outlook. Enfin voilà, moi je suis plutôt partisan du logiciel libre. Je pense que beaucoup de gens sont partisans du logiciel libre pour notamment des raisons d'indépendance et d'avoir la main dessus, comme ça a été dit dans l'émission juste avant, enfin la séquence juste avant, de savoir ce qu'il y a dedans, de savoir comment ça se passe. Ça me semble important, notamment pour des organes tels que l'Assemblée nationale. Donc balayons devant notre porte, faisons des efforts déjà nous-mêmes avant de se lancer dans des grands projets pour la compétitivité.
Jean-François Cesarini, sur ça vous êtes assez d'accord, non ?
Non, bien sûr, on peut être tout à fait d'accord sur le fait à la fois de montrer l'exemple. Je pense qu'il faut mettre aussi en avant des entreprises qui sont françaises et européennes. Je pense à des entreprises comme Quant, qui est vraiment le concurrent de Google, et avec évidemment une politique de ne pas garder les données personnelles, d'avoir quelque chose qui est vraiment
bien
éthique.
Bien qu'elle travaille avec Bing, c'est-à-dire Microsoft, mais bon.
En tout cas, il y a aussi des alternatives ce qui se passe avec Facebook en ce moment et les auditions de Zuckerberg montrent qu'il y a quelque chose dans la mentalité qui est en train de bouger. Ce qu'on pouvait faire avant de manière impunément ne peut plus arriver. Ces sénateurs-là qui l'ont, et à juste titre, vraiment titillé, il y a peut-être 6 mois, 1 an, la question ne se posait pas. Il y a quelque chose qui est en train de changer et c'est assez normal finalement. Quand on a une révolution technologique, il y a d'abord quelque chose qui est très sauvage et ensuite il y a quelque chose qui vient se réguler. Vous savez, la révolution du 19e siècle, le communisme est apparu un petit peu après.
Et puis, etc.
Ouais. Mais donc en fait, il se passe là quelque chose, à mon avis, qui vient des utilisateurs, qui ne veulent plus qu'on prenne leurs données n'importe comment. Et donc c'est ça qu'il faut anticiper, nous, assez fortement.
Hugo Bernalicis, sur numérique à l'école, numérique et justice, vous avez évoqué ça en introduction. comment est-ce que vous voyez le travail non seulement du gouvernement et du secrétaire d'État au numérique?
Je vais refaire un peu un parallèle avec tout ce qui s'est dit depuis le début, parce que ce qui m'inquiète, c'est que effectivement la révolution numérique se passe sans l'État, sans la puissance publique. Elle est là un peu à la traîne derrière, en train de vouloir réguler, accompagner, je sais pas trop quoi. Alors qu'on a vu que par le passé, quand l'État a dit on fait le nucléaire, hop, on a sorti des centrales nucléaires, etc., qui fonctionnent. Quand on a dit on a fait le Minitel, hop, on l'a fait, ça a fonctionné. C'était là, il fait quoi l'État en la matière? C'est quoi le grand projet de Mounir Majoubi sur le numérique? Je ne sais pas. Je sais que au ministère de la Justice, ils vont passer par une boîte privée hein, pour voir pour justice.fr, pour comment on va améliorer le process, etc. Les mecs, en plus, souvent, ils abandonnent le projet. Ils se tirent les cheveux parce que...
Mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Parce que François Hollande avait annoncé on va créer un Google français. 5 ans après, il n'y a pas eu de Google français, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on peut annoncer qui est faisable?
Mais parce qu'il faut que l'État s'y mette. Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on ait une administration dédiée au sein de la fonction publique d'État qui sache programmer, faire des logiciels pour le compte d'autres ministères, qui sache développer des équivalents de Google, etc. Enfin, on a quand même cette ressource-là dans le pays, je pense, en tout cas intellectuelle. On a les jeunes, les jeunes hommes et les jeunes femmes qui sont formés pour faire ça. Et vous savez qu'il y a une grande précarité en plus dans le milieu du numérique en général. Eh ben, sécurisons tout ce beau monde, faisons des grands projets qui soient utiles pour tout le monde. On pourrait faire, par exemple, une plateforme de téléchargement publique de données qui soit gratuite, notamment tout ce qui est à la fois libre de droit et tout ce qui est tombé dans le domaine public. Faisons des belles choses comme ça.
Jean-François Cesarini.
Bon, on l'a dit tout à l'heure, mais cette plateforme qui va s'appeler France Connect, effectivement, avec tout le portail pour les services publics et qui va être en plus développée...
Mais c'est pas une usine à gaz, là encore, de tout vouloir
L'usine à gaz, c'est ce qui se passe aujourd'hui, quoi. C'est que chaque service...
Non, aujourd'hui, c'est pas une usine à gaz, c'est plutôt plein d'opérateurs.
Ouais, c'est ça. Un concept avec des identifiants uniques pour à la fois tous les services publics et potentiellement des services privés, ce qui existe en Estonie, mais l'Estonie est un plus petit pays.
Oui, l'Estonie. Voilà. Ouais.
L'Estonie comme modèle, non, mais ça veut dire qu'on doit pouvoir peut-être y arriver. Ce qui est intéressant peut-être à dire pour comprendre un peu cette révolution numérique qui est en train de se passer, c'est qu'il est possible que Mounir Majoubi soit le dernier secrétaire d'État au numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, le pass culture de Nissen, il se fera pas comme des chèques en Italie, il se fera avec une application.
Ou pas. Ou il se fera pas.
Il se fera. Et en plus, on est content parce que c'est peut-être une entreprise...
Avignonnaise,
peut-être,
c'est ça que vous voulez
peut-être.
Dire.
Peut-être. Mais ce qui est normal, vu que la culture numérique, on sait à peu près ce que c'est, nous, chez nous. Mais non, mais ce qui se passe, effectivement, avec la télémédecine, c'est-à-dire que aujourd'hui, tous les ministères sont impactés par ça. Et c'est vrai, quand on va voir le cabinet de Majoubi, on dit, bah tiens, il faut que j'appelle un homologue dans le ministère d'à côté parce qu'on leur propose quelque chose. Faut comprendre ça. Il n'y a pas d'économie numérique. Il n'y a que des économies traditionnelles qui se numérisent.
Pour conclure cette émission, j'aimerais partager avec vous les résultats du sondage Ipsos pour Le Monde et le Cevipof publié ce week-end et qui montre que les Français se divisent pour l'instant en gros en 3 blocs, hein, à peu près égaux par rapport au bilan d'Emmanuel Macron. 1/3 de passionnés qui apprécient à la fois la personnalité et l'action du chef de l'État et qui sont plutôt des urbains, des personnes actives, aisées et diplômées et d'âge moyen, hein, sinon parfois âgées. Et là, évidemment, je suis sûr que Jean-François Cesarini, vous vous retrouvez dans cette catégorie des passionnés.
Ensuite, parce que je suis âgé.
Non, parce que vous êtes macroniste, je crois.
Député de la République en marche,
ça suffit. Bon, c'était pas dans le sondage, mais c'est
moi, je crois que je dois être dans le tiers mécontent.
Alors voilà, on en vient ensuite un gros tiers de détracteurs, hein, de déçus qui n'aiment ni la personnalité d'Emmanuel Macron ni sa politique, et qui sont plutôt jeunes, employés, ouvriers, peu diplômés, ont des revenus modestes et vivent plus fréquemment à la campagne ou dans la périphérie des villes. Ça, c'est pour vous, Hugo Bernalicis, bien que je crois que vous soyez du Nord et même peut-être de Lille, non?
Ouais.
Voilà. Enfin, un dernier tiers de Français, ça c'est Zoé Sfez, n'est-ce pas? Peut-être moi, je ne sais pas.
Vous n'en savez sont... strictement rien.
Mais de toute façon, on ne sait pas ce qu'ils pensent, puisqu'ils sont partagés et divisés. Ils aiment ou pas la personnalité du chef de l'État, mais son action ou pas, ou l'inverse. Ils sont plutôt satisfaits de son action, mais n'aiment pas sa personne. Dans l'ensemble, ces Français aiment l'énergie et la modernité du nouveau président, mais ils le classent majoritairement à droite. Selon l'Ipsos, tout cela reflète un déséquilibre idéologique. Le président qui s'est voulu au centre, sinon centriste, du moins central, sur l'échiquier politique, ni de droite ni de gauche, ou plutôt de droite et de gauche, aurait eu tendance à se déporter en une année vers la droite. Tout ça donc selon l'Ipsos, Le Monde et le Cevipof. Pour conclure d'une phrase, l'un et l'autre, pensez-vous que la politique culturelle numérique, les idées en matière de médias et d'innovation, placent Emmanuel Macron au centre du jeu politique, à sa gauche ou à sa droite?
Effectivement, là, sur la première année qui vient de s'écouler, Je pense que les deux piliers étaient libérés et protégés. On est en train de libérer, il va falloir protéger à un moment un peu plus. Et la notion d'en même temps est un peu compliquée parce qu'il faut d'abord libérer. Moi je dis toujours, la social-démocratie ça commence à 2% de croissance, pas avant. Donc pour le coup il faut d'abord, je pense, libérer et ensuite pouvoir partager les fruits de la richesse. C'est comme ça qu'on va le faire. Par contre par rapport à ce que vous disiez sur la sociologie, c'est important aussi par rapport au territoire dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, là il y a quelque chose qui fait que plus on est loin des métropoles, plus on a du mal à comprendre la politique d'Emmanuel Macron. Et je pense que...
Ça, il faut corriger ça.
Vraiment. Et moi, je vais rendre un rapport de la mission d'information parlementaire le 30 mai, là-dessus, justement.
Hugo Bernalicis, pour conclure.
Clairement, c'est le libéralisme qui est la doctrine politique du président de la République, qui est traditionnellement plutôt quand même classé à droite, et qui s'applique en la matière du numérique. Je prends sur les données personnelles, on a modifié le rôle de la CNIL, qui avant, sur un certain nombre de fichiers, avait un rôle d'autorisation. Maintenant, on va avoir un rôle seulement de supervision. On essaye à chaque fois de libérer les énergies. Hein, et finalement, c'est l'État qui est en retrait, la puissance publique qui est en retrait, avec certes des bons sentiments sur le numérique, mais à un moment donné, il va falloir que l'État revienne dans le game.